Ce matin, j'aimerais juste commencer avec cette image. Je ne sais pas s'il y a certains qui regardent un peu le sport. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà, c'était un match de la Coupe d'Afrique 2022. Et là, c'était la Tunisie qui jouait contre le Mali. Et c'était choquant parce que l'arbitre a arrêté le match alors qu'il restait encore 5 minutes dans le temps réglementaire. Et là, sur la photo, on a deux membres du staff tunisien qui montrent à l'arbitre, mais on a le même chrono en fait. On est sous le même fuseau horaire. Comment ça? Il reste 5 minutes, mais tu arrêtes le match. Donc c'est là, c'est cette image-là. Et en rouge, on voit que c'est 85 minutes. Normalement, un match de foot dure 90 minutes, mais l'arbitre a arrêté 5 minutes avant. Donc ils se sont plaints en disant, mais on a le même chrono en fait. On est sous le même fuseau horaire. Et c'était drôle parce que ça a créé, je veux dire, un petit scandale. Et puis après, l'arbitre a repris le match. Et après 4 minutes, il a arrêté le match sans arrêt de jeu ainsi de suite. Bon, après, on a dit qu'il a pris un coup de soleil et tout ça. Il n'était pas très lucide. Mais ça a créé vraiment, je veux dire, un choc. Et les dirigeants tunisiens étaient à même de protester parce qu'ils avaient le même chronomètre que l'arbitre. Ils avaient le même temps. Donc, il n'y avait pas de décalage de fuseau horaire. Et c'est intéressant de voir cette histoire qui introduit un peu notre texte biblique de ce matin, mais surtout en voyant que Dieu ne compte pas le temps comme nous. Je veux dire, Dieu n'a pas le même chronomètre que nous. Et on verra cela avec notre texte de Matthieu 24 qui va nous encourager ce matin à continuer notre survol du livre de Matthieu. Pour ceux qui viennent pour la première fois, depuis quelques semaines, nous survolons l'évangile de Matthieu en tant qu'Église. Et la semaine dernière, nous avons été bénis en réfléchissant sur Matthieu 23, où particulièrement Jésus reprochait aux responsables, je veux dire juifs de l'époque, d'avoir rejeté lui qui était le Messie. Et c'est intéressant de voir que la fin de Matthieu 23 termine le chapitre 23 avec ces mots. Matthieu 23, à partir du verset 37. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ce que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare, désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu termine le chapitre 23, je veux dire, sur une note triste, où durant tout le chapitre, il montre comment est-ce que les principaux responsables ont rejeté le Messie, ont rejeté le message de Jésus. Et il termine cette note sous une note de tristesse. Ces derniers versets du chapitre 23 qui nous introduisent directement dans le chapitre 24 que je nous invite à lire maintenant. Matthieu, chapitre 24. Donc, là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Et tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors, il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira, quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention, hein, que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie !» et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tout le peuple, pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. De faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, même si c'était possible, ce que Dieu a choisi. Voilà, je vous ai prévenu. Ce récit de Matthieu 24, on le retrouve aussi dans des récits parallèles, dans l'évangile de Marc, chapitre 13, et dans l'évangile de Luc, 21, versets 5 à 36. C'est intéressant de comprendre un peu l'arrière-fond, je veux dire, de ce récit que Matthieu nous fait dans ce texte. L'arrière-fond, il y a un élément important, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les prophéties de Daniel, dans ce que Matthieu dit ici. Il y a beaucoup de choses qui sont retrouvées dans les prophéties de Daniel. Et quand on lit Daniel, on voit qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de mots qui sont semblables, beaucoup de prophéties qui sont similaires à ce qu'il dit. Et Matthieu, au chapitre 24, pour parler des mots de Jésus, adopte un style prophétique. Et c'est important de comprendre ça. Parce que dans le style prophétique, parfois il peut annoncer deux événements, je veux dire qui sont totalement distincts, mais la manière de les annoncer, on a l'impression qu'ils se déroulent au même moment. Il faut tenir compte de cela pour pouvoir bien expliquer. Souvent, quand les prophètes parlent des événements de l'avenir, on a l'impression qu'ils parlent de deux événements. Ils parlent souvent de deux événements différents, mais on a l'impression qu'ils arrivent, je veux dire, au même moment. Alors qu'ils traduisent deux événements totalement différents qui vont arriver à des périodes aussi différentes. Et c'est ce qu'on voit aussi un peu dans ce discours de Jésus qui nous est rapporté par Matthieu, qui parle ici un peu des signes de la fin des temps, lorsqu'il répond à ses disciples. En lisant ce texte, on est un peu... On a l'impression qu'il y a un petit mélange, une petite amalgame. Les disciples posent la question à Jésus par rapport à la destruction du temple, et il lit ça, je veux dire, au retour de Jésus à la fin du monde. Donc il parle de deux choses, je veux dire distinctes, mais dans la réponse de Jésus aussi, on a quand même du mal à comprendre avec des éléments de réponse. Et comme je le redis, nous sommes dans une perspective prophétique. Quand le Seigneur inspire Matthieu à écrire ici, c'est une perspective prophétique. Et c'est important de comprendre cela avant de continuer notre texte. Les disciples s'approchent de Jésus, et qu'est-ce qu'ils font remarquer à Jésus? La beauté ou la stature du temple. Tu peux... Ils attirent l'attention de Jésus sur la beauté du temple. Vas-y, Némi, s'il te plaît. Voilà. Bon, la photo n'est pas très, je veux dire, très claire. Voilà. Mais c'est juste une photo que j'ai trouvée. Hein. C'est l'historien Joseph Flavius, voilà, qui parle du temple. Voilà. C'est un peu une photo du temple, je veux dire, à l'époque. Je veux dire, c'était un temple, je veux dire, qui était beau. Joseph, c'est un historien, je veux dire, qui est souvent pris en exemple, même par plusieurs, je veux dire, pères de l'Église. Et il dit qu'il y a une partie du temple qui était parée en or. Et le temple, je veux dire, on pouvait même l'apercevoir de loin. C'était un endroit imposant, beau. Il attirait les regards par sa beauté. C'était difficile de passer par Jérusalem sans être attiré par la beauté du temple. Et là, les disciples, je veux dire, attirent l'attention de Jésus sur la beauté du temple. Il dit, mais regarde l'architecture. Regarde la beauté du temple. Regarde combien de fois c'est imposant. Regarde combien de fois c'est beau. Et c'est important de comprendre aussi, je veux dire, que le temple, je veux dire, avait une importance pour le peuple d'Israël, avait une importance pour le peuple juif. Ce n'était pas juste un truc décoratif. Suleiman n'est pas là, mais j'ai eu la grâce de visiter un peu le Maroc, mais quasiment dans chaque ville, il y a un palais royal qui traduit, je veux dire, l'autorité ou la beauté de ce que le roi est, le roi du Maroc. Quasiment dans chaque ville, il y a un palais. Et pour les Juifs, le temple, je veux dire, c'était un peu comme le centre de la vie, parce que c'était là où le culte était célébré, c'était là où on offrait la louange et l'adoration à Dieu. C'était un culte qui était centralisé, donc le temple était quelque chose d'important. C'est là où on faisait les sacrifices, c'est là où on offrait les parfums au Seigneur. Donc le temple, pour les Juifs à Jérusalem, c'était comme le centre de la vie. C'était là où on allait en relation avec Dieu. Donc les disciples disent à Jésus, mais regarde la beauté du temple. Regarde combien de fois le temple est beau. Regarde combien de fois le temple est, je veux dire, imposant. Mais la réponse de Jésus est quand même déroutante. Qu'est-ce que Jésus dit à partir du verset 2, il dit, mais verset 2, Jésus dit, mais regardez bien tout cela sera détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Les disciples invitent Jésus, je veux dire, à regarder la beauté du temple. Mais la réponse de Jésus, en fait, il dit, mais regardez bien ce temple. Avec tout ce qu'il représente pour le peuple juif, avec tout ce qu'il représente pour le peuple d'Israël, il dit, ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Attendez, c'est Matthieu qui écrit, avec un arrière-plan juif derrière. Donc imaginez la réponse de Jésus. Le temple, qui est le lieu d'adoration, le centre du culte qui est offert à Dieu. Mais il dit, tout cela sera détruit. Alors les disciples, voilà, ils reviennent vers Jésus, ils disent, mais attends, mais quand est-ce que cela arrivera-t-il, verset 3, et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Est-ce que vous voyez un peu le sens de la question? Marc précise bien, en fait, que c'est certains des disciples, hein, Pierre, Jean, Jacques, qui sont venus pour lui poser la question. Ça veut dire des disciples qui étaient vraiment proches du Seigneur. Marc précise ces personnes. Mais ici, ils disent, les disciples demandent à Jésus de regarder la beauté du temple. Et la réponse de Jésus, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Ça veut dire qu'il sera détruit. Mais ils sont choqués. Notre lieu très saint, le centre de notre adoration. Où est-ce qu'on offre les parfums à Dieu? Et les disciples posent la question à Jésus, mais attends, dis-nous quand cela va se faire et quel est le signe de ton avènement et de la fin des temps? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en lisant, c'est quand même la question un peu... Jésus parle du temple, mais la question posée par les disciples nous donne des indices sur comment est-ce qu'ils ont compris la réponse de Jésus. Il lit la destruction du temple avec le retour de Jésus, son avènement et la fin du monde. En d'autres termes, c'est comme si, le temple ne pourra être détruit qu'à la fin du monde. C'est quand tu reviendras. Mais il est hors de question que ce temple soit détruit maintenant, puisque c'est par là qu'on t'adore, c'est le lieu d'adoration. Les disciples voulaient savoir exactement quand cela allait arriver, la destruction du temple. Quel était le signe qui allait annoncer que Jésus allait revenir et que le monde allait finir? Ils voulaient savoir le quand. Ils voulaient savoir le match finit à quelle heure? Après 90 minutes, n'est-ce pas? Pas à 85. Donc ils demandent Jésus, quand cela va arriver? Et quels sont les signes qui annoncent ton retour? Les réponses de Jésus, voilà. On voit un peu, c'est comme s'il y avait... Voilà. C'est pas toujours évident. Je veux dire, c'est comme s'il lit la description du temple, je veux dire, avec le retour du Seigneur. C'est comme si, dans la réponse de Jésus, c'est comme si les signes qui précèdent la chute de Jérusalem et du temple sont les mêmes que ceux qui précèdent la fin du monde. Et quand on lit tout Matthieu 24, les réponses de Jésus, on a vraiment du mal un peu à séparer, je veux dire, voilà, ce qui va précéder la destruction du temple et puis ce qui va précéder le retour du Seigneur. On revient à ce que je dis à l'introduction, une perspective prophétique. Ou parfois, il parle de deux réalités, je veux dire, mais c'est comme s'il parlait de la même chose au même moment. Quelques éléments par rapport à la réponse de Jésus. Voilà. Comment est-ce que Jésus répond à la question des disciples? Je résume un peu les réponses qu'il donne. Hein. On est toujours dans Matthieu 24, n'est-ce pas, à partir du verset 4. Voilà. Jésus commence en disant, prenez garde face à la séduction, voilà, soyez vigilants. Ah, mais Jésus, on te demande quand il commence. Prenez garde face à la séduction. Veillez, prenez garde. Il continue en disant, plusieurs faux messies viendront. Des faux messies qui diront, c'est moi qui suis le messie, c'est moi qui suis le sauveur, c'est moi qui suis le libérateur. Suivez-moi, je suis capable de vous délivrer. C'est moi le messie, c'est moi le Christ, c'est moi qui suis le messie. N'oublions pas, derrière ce fond-là, de l'époque aussi, il y avait l'influence de Rome, n'est-ce pas, sur le peuple d'Israël. Donc, il ne faut pas oublier cela. Il continue en disant qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y aura des conflits. Une nation se lèvera contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura la famine, les tremblements de terre. Et Matthieu dit non, ne soyez pas surpris par ça. Ce n'est que le début des douleurs. Il ne s'arrête pas là. Il continue en disant, il y aura le tourment, il y aura la persécution, il y aura la haine des nations contre vous à cause de mon nom. Ça, c'est intéressant. Ce ne sera pas la haine des nations contre les disciples parce que ce sont des gens qui ont fait... Non, mais ce sera à cause du nom du Christ, parce que les disciples vont garder le nom du Christ, vont garder sa parole que les nations vont détester. Mais ce que Jésus dit n'est pas différent de ce qu'il dit plus haut, hein. Les mêmes responsables des Juifs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté Jésus. Ils continuent en disant, qu'est-ce qui va se passer? Mais à cause de cette persécution, à cause de cette tribulation, à cause de ces difficultés, qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs vont succomber. Plusieurs vont renier la foi. Plusieurs vont se trahir. Et il y aura de la haine mutuelle. Ce ne sera pas juste cela. Ça, c'est un cocktail terrible. Il dit, qu'est-ce qu'il y aura en plus? Il y aura des faux prophètes qui vont s'élever, des faux prophètes. Et il continue en disant que ces faux prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des miracles et des prodiges. À tel point que s'il était possible même de séduire les élus, ils allaient les séduire. Un tel niveau de séduction, des faux prophètes qui vont se lever pour dire qu'ils parlent au nom du Seigneur. Avec des signes, des prodiges, des miracles impressionnants. Mais derrière, c'est quoi? C'est la séduction. Il continue en disant que l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre va baisser. Il dit celui qui va persévérer, malgré tout ce cocktail-là, malgré tout ce shakshouka. Moi, shakshouka ici, on mange. C'est un repas tunisien, quand on mélange beaucoup de choses, shakshouka. C'est positif, je veux dire, mais ça c'est un cocktail terrible. Il dit, malgré ce cocktail de circonstances, la personne qui va persévérer jusqu'au bout sera sauvée. Il continue en disant que l'annonce de la bonne nouvelle sera faite dans toutes les nations. La bonne nouvelle sera annoncée. Après viendra la fin. Voici la réponse que Jésus donne à ses disciples à la question de savoir, mais quand est-ce que ça va se passer? Quand est-ce que le temple sera détruit? Quand est-ce que, quels sont les signes qui vont montrer que, je veux dire, que tu vas revenir bientôt et que la fin se rapproche? Jésus, dans sa réponse, on a l'impression que c'est le ton de sa réponse, hein, je veux dire quoi, c'est comme si c'était un ton de jugement. Parce que tout ce qui est décrit là, ce sont des choses qui sont difficiles. Et il annonce que le temple sera détruit. Il annonce des catastrophes. Mais c'est intéressant que malgré ce portrait, je veux dire ce cocktail, le Seigneur dit à ses disciples, mais ces choses ne doivent pas vous alarmer. Ne soyez pas séduits. Mais ces choses ne doivent pas vous alarmer. Ce sont des choses qui doivent arriver. Et qui ne sont pas tant le signal de la fin du monde. Il dit, faites attention, parce qu'il y aura des gens qui vont utiliser ces éléments-là pour vous dire, c'est la fin. Mais il dit non, ce n'est que le début des douleurs de l'enfantement. Certains vont aller plus loin en disant, je suis le Christ. En fait, certaines choses qu'on vit maintenant, les premiers disciples ont vécu cela. Les faux prophètes, les gens qui s'auto-proclament Christ, qui s'auto-proclament sauveur, même à l'époque. Il y avait des gens qui disaient, voilà, sans oublier qu'à l'époque, je veux dire, il y avait la domination romaine qui se disait, voici, je suis le libérateur qui va vous délivrer des Romains. Je suis le libérateur. Regardez les signes, les prodiges que je fais, les miracles. Jésus nous met en garde. Il met en garde ses disciples comme de telles personnes. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Dans la réponse de Jésus à la question des disciples qui lient la description, je veux dire, du temple, je veux dire, aux signes qui vont précéder le retour de Jésus à la fin du monde, en fait, c'est comme si, en fait, la destruction du temple de Jérusalem sera le début d'une grande tribulation, sera le début d'une une phase difficile pour les disciples. Jésus dit, ne vous laissez pas séduire. La réponse de Jésus nous montre que pendant cette période qui va précéder la destruction du temple, effectivement, le temple sera détruit. Les historiens disent, à l'an 70, je veux dire, le temple a été détruit par les Romains qui sont arrivés. Tout ce que Jésus décrit ici, il y a des éléments qui se sont pleinement accomplis avant la destruction du temple. Le temple a été profané. Ces choses se sont accomplies. Des famines, des guerres, des tremblements de terre. Même à l'époque, je veux dire, où Matthieu écrivait, il y avait cela. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flagrant parce qu'on a les réseaux sociaux, quelque chose qui peut se passer, je veux dire, dans mon village, au Gabon, à Bamébé, on peut partager ça sur les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais il y avait ces réalités-là. Tremblements de terre, meurtres, famines, toutes ces choses. La fin de Matthieu 23, la lamentation de Jésus, la tristesse de Jésus qui reprochait à Jérusalem, qui tue ce qu'on t'envoie, qui reprochait aux responsables juifs, vous refusez de croire au Messie que Dieu vous envoie, vous refusez de croire en la grâce de Dieu, vous refusez la solution que Dieu a apportée, je veux dire, pour le pardon de vos péchés, vous refusez cela. Alors, si nous refusons la grâce de Dieu, si nous refusons le moyen du salut de Dieu, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre, si ce n'est que le jugement de Dieu, que la colère de Dieu, de tels événements qui sont tristes, qui sont alarmantes, sont simplement un avant-goût, des préambules du grand jugement qui arrivera à la fin. Ce ne sont pas tant des indices pour nous aider à déterminer la date exacte de quand le Seigneur va revenir. Non, non, ce n'est pas tant ça, ce n'est pas tant le but. Mais ces indices et ce temps que le Seigneur nous accorde, c'est une belle invitation de Dieu pour que nous puissions revenir à lui pour croire en la grâce qu'il nous accorde en Jésus. Jésus ne répond pas en donnant la date exacte. Non, non, non. Mais au contraire, le ton qu'il a dans le texte, c'est un ton, je veux dire, qui fait suite à ce qu'il a dit à la fin de Matthieu 23. Où en fait, le centre du, il annonce que le centre de la vie des Juifs, le centre de l'adoration, le temple, l'endroit où on offrait des sacrifices à Dieu, l'endroit où on adorait Dieu sera détruit. Le symbole, je veux dire, de l'adoration offerte à Dieu sera détruit. Parce que le peuple a refusé de recevoir le Messie, le moyen du salut que Dieu a porté. Alors si on refuse, on est perdu. Si on refuse la grâce de Dieu, si on refuse le salut que Dieu nous offre, alors nous sommes sous le coup de la condamnation. Et on voit les guerres, on voit les famines, on voit toutes ces choses, en fait, qui sont en réalité les conséquences de notre péché. Dieu ne prend pas plaisir à faire cela, non. Non, mais c'est nous-mêmes qui avons rejeté la grâce de Dieu. Alors, si nous rejetons la grâce de Dieu, ce qui tombe sur nous, c'est uniquement la conséquence de nos péchés. C'est la colère qui s'abat sur nous. Et c'est avec peine que Jésus dit ces derniers mots dans Matthieu 23. Jérusalem, Jérusalem, j'ai tellement voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. C'est cela le désir de Jésus, c'est cela le désir de Dieu. Il voulait ramener à lui le peuple de la promesse, le peuple à qui il a fait la grâce de choisir ce peuple au travers d'Abraham. Le peuple d'Israël, c'est le peuple que Dieu a choisi. Pas parce que ce peuple était beau ou meilleur que les autres, non. Uniquement parce que Dieu, dans sa grâce, a décidé de choisir ce peuple. C'est pourquoi il est même venu d'eux, il est venu des Juifs et il est venu vers ce peuple-là comme un simple enfant, pour leur dire « Je suis le sauveur ». Il n'y a pas de possibilité de vous sauver par vous-même. Les sacrifices offerts dans le temple ont une limite. Je suis le sacrifice parfait. Il est ce Messie que Dieu a envoyé par amour, mais le peuple a refusé. Et c'est avec peine qu'il dit « J'ai tellement voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous avez refusé ». Ça, ce sont mes mots qui traduisent un peu ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait, son amour pour nous. Mais le peuple a rejeté. Ils ont refusé le Messie. Ils ont refusé le message de Christ. Ils ont refusé cela. Alors, la conséquence, ce n'est que la destruction. Et la Bible dit dans Jean 3, à partir du verset 16, ce sont des paroles de Jésus à Nicodème. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui placent en lui leur confiance échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. » Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. C'est ce qui s'est passé. Et Jésus annonce cela parce qu'ils avaient refusé de croire à l'amour de Dieu, au salut de Dieu. Alors ce sera la condamnation, la colère qui s'abattra. Parce que si nous refusons le moyen du salut que Dieu nous accorde, on n'a plus rien à espérer. Il n'y a aucun autre moyen. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos sacrifices. Ce ne sont pas les animaux qui sont offerts tout le temps au temple qui pourront apaiser la colère de Dieu, non. Le sacrifice parfait, c'est le Christ. Mais si on le refuse, si on le rejette, on est sous le coup de la colère, de la destruction. Et c'est avec peine, c'est avec tristesse, c'est avec pincement de cœur que le Christ l'annonce. Alors, je veux terminer. Le plus important, dans la réponse de Jésus, le plus important, ce n'est pas tant de savoir quelle est la date exacte de son retour. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que les signes qui ont précédé la destruction de Jérusalem et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, qui sont ce temps, cet intervalle de temps que Dieu nous accorde, où on peut vivre des tribulations, sont simplement une belle invitation qui nous rappelle que le jugement du Seigneur viendra, mais que pendant ce temps, il nous offre la possibilité de revenir à lui, de revenir à lui pour saisir son amour, de revenir à lui pour bénéficier de sa grâce, de revenir à lui pour bénéficier de son salut, parce qu'il désire notre salut. Je termine avec ces mots de notre aîné Pierre, qui nous montre encore que Dieu n'a pas le même chronomètre que nous. On a vu l'exemple introductif avec cet arbitre qui arbitrait le match Tunisie-Mali, qui a arrêté le match 5 minutes avant, et les Tunisiens ont dit, mais il reste 5 minutes. Mais Dieu n'a pas le même chrono que nous. Écoutons ce que je termine avec ce texte dans 2 Pierre chapitre 3. C'était la même chose. Les gens s'interrogeaient, disaient, mais depuis, vous avez dit, le Seigneur allait revenir. Depuis, mais on ne voit rien. Depuis. 2 Pierre chapitre 3. Je termine avec ce texte, vraiment. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis le monde est monde, rien n'a changé. Votre Jésus là, continue. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux, il a rassemblé du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés pour cette même parole, pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement. Et tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Ça, c'est le chrono de Dieu. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Le Seigneur ne tarde pas, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il fait preuve de patience, parce que son désir, ce n'est pas de détruire, son désir, c'est que tous soient sauvés, se convertissent, son désir est que tous puissent saisir la grâce de son amour au travers de Jésus. C'est son désir. C'est son cœur. Un élément, malgré la persécution, malgré les faux prophètes, il dit celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et dans cette persévérance, il y a face aux épreuves, mais aussi la persévérance à annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Ce temps de latence que le Seigneur nous donne, ce temps de patience que le Seigneur nous donne, ce n'est pas parce qu'il est en retard, mais c'est parce qu'il use de patience, parce qu'il désire. Il désire que des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, de toute nation, de tout peuple, puissent entendre la bonne nouvelle et puissent revenir à lui. Et dans sa grâce, il veut nous utiliser pour pouvoir partager cette bonne nouvelle-là à ceux qui ne connaissent pas. Pour que cette parole soit partagée à toutes les nations, à tous les peuples, à tous les corps d'activité, parce que le Seigneur désire, c'est cela son cœur. Il ne prend pas plaisir ici à annoncer un jugement contre Israël parce qu'il est content, non, mais il est triste, il est peiné parce qu'il désire que tout le monde soit sauvé, il désire le salut. La destruction de Jérusalem a eu lieu, du temple également a eu lieu à l'époque. Le temple a été rasé. Mais c'était juste un avant-goût parce que le peuple a rejeté. Plusieurs Israélites ont rejeté Jésus. Mais il accorde encore du temps. Ce temps de latence, ce temps de grâce, ce temps de patience parce qu'il nous aime et il désire sauver. Il désire sauver nos familles, il désire sauver cette nation, il désire sauver nos collègues à la fac, il désire sauver nos collègues au travail, il désire sauver même ce propriétaire, voilà qui, apparemment, qui te fatigue chaque mois, le Saint qui t'appelle. Dieu désire sauver. Et il nous invite à persévérer dans l'Évangile, à ne pas nous laisser distraire ou séduire par les faux prophètes, à persévérer dans la saine doctrine. Malgré les persécutions, malgré la haine, malgré le rejet, malgré les emprisonnements, à persévérer. Il y a des témoins de cette bonne nouvelle partout où nous place. Que ce Dieu d'amour qui nous aime nous fasse la grâce de ne pas réagir comme les responsables qui ont rejeté le Messie, mais nous donne la grâce d'accepter son amour et d'être transformé en des personnes qui marchent avec lui et qui annoncent sa bonne nouvelle. Je nous invite à prendre un temps dans la prière.